Bien, il est 14h31, nous pouvons commencer. Bonjour, donc nous allons entendre la seconde des quatre conférences d'Anthony Grafton sur le thème qu'il a choisi, correcteur et correction dans les ateliers typographiques de la Renaissance. Et aujourd'hui, il parlera à la fois des statuts sociales, culturelles, économiques des correcteurs et aussi de leurs pratiques de métier. Mais avant de lui donner la parole, je voudrais rappeler, comme si je tenais son agenda pour la semaine prochaine, qu'il a une semaine prochaine extrêmement occupée, et ceux qui vont suivre ses conférences aussi, du même coup, puisqu'il donnera les deux premières conférences dans un autre cycle, qui est le cycle des conférences et colloques du Louvre. Et là, il a choisi comme thème la page de l'Antiquité à l'ère du numérique, histoire, usage et esthétique. Je pourrais faire circuler l'annonce, vous la trouvez facilement sur le web. La première conférence aura lieu le 11 juin à 19h à l'Auditorium du Louvre. Les pages de l'Antiquité à l'ère du numérique, bon, c'est y a le titre général qui est repris, mais le titre plus précis sera la page et son lecteur. De l'ère numérique à l'Antiquité, donc un parcours à l'envers. Et la deuxième aura lieu le 14 juin, la page en mutation, métamorphose et signification, et ce qui amènera au 15 juin, c'est-à-dire la troisième des conférences dans le cycle du Collège de France sur la correction. Donc voilà un emploi du temps, je vais vous faire passer cela, que vous pourrez bien chargé. Donc, comme l'autre jour, une conférence, et ensuite nous pourrons discuter sur ce que nous aurons entendu et vu. Merci.
Merci, Roger. Mesdames et messieurs, un des aspects les plus frappants de la situation des correcteurs d'imprimerie à la Renaissance est aussi extrêmement déprimant, au moins aux yeux de leurs historiens fidèles. Pour toute l'importance et l'utilité de leurs travaux, ils semblent avoir reçu de leurs contemporains moins de la reconnaissance que de la pitié ou de la dérision. Dès 1534, lorsque l'humaniste frison Viglius Zoechemus décrit l'atelier de Froben, il mentionne le correcteur en chef Sigismund Galenius juste pour exprimer sa pitié envers cet homme extraordinairement savant qui est digne des choses bien meilleures. Presque tout le monde tombe d'accord avec Zoechemus. La situation professionnelle du correcteur est pitoyable. Même Jérôme Hornschuch, correcteur expert et auteur du premier traité sur l'art de la correction, admet qu'il avait lui-même repris le métier du correcteur seulement afin d'éviter celui d'un tuteur, une condition qui, selon lui, serait encore pire. Et il disait que la plupart de ses collègues, s'ils le pouvaient, seraient partis en vitesse de ces ergastules pour gagner leur vie par leur intelligence et leur érudition. D'où venait cette misère du métier du correcteur? Les correcteurs eux-mêmes savaient présenter leur métier comme une art libérale. La page de titre de l'édition de Sénèque, publiée par Erasme, soi-disant publiée par Erasme en 1515, par exemple, promettait au lecteur, avec une inconséquence charmante, il faut s'imaginer qu'on a écrit ces textes de présentation très tard dans le processus de production, par exemple, quelques heures avant que le dernier feuillet sera imprimé, donc avec une inconséquence charmante, qu'il trouverait entre les couvertures tous les essais de Sénèque avec un supplément de quelques autres, tout purifié par les efforts d'Erasme, sinon de toutes les erreurs, au moins d'un grand nombre. Le même texte de présentation contient un jeu de mots révélateur qui porte sur les deux significations du verbe « emendo ». Si vous étudiez ces livres de manière intensive, ils poliront ta langue et ils corrigeront ta vie. Comme Joseph Lowenstein a très bien remarqué dans ses études sur la carrière littéraire de Ben Jonson, un vocabulaire moral se cachait dans la langue de correction de texte, un vocabulaire, une langue vraiment humaniste. Et ce vocabulaire moral évoquait deux mondes classiques à la fois. D'une part, Il faisait allusion aux auteurs latins, tels Cicéron et Atticus, Pline le Jeune et Tacite, qui avaient corrigé les textes, les écrits de leurs amis. Atticus marquait les erreurs qu'il a trouvées dans les œuvres de Cicéron avec les cires rouges. J'avais peur, Cicéron écrit, de tes crayons rouges. D'autre part, il rappelait à la mémoire des auteurs, des imprimeurs et des lecteurs les mœurs de l'âge héroïque de l'humanisme italien. Au XVe siècle, comme Paul Asker Christeller l'a établi il y a longtemps, les humanistes désiraient de produire en latin des écrits d'un haut niveau d'intelligence et de correction selon les critères classiques. Les conséquences des erreurs stylistiques et grammaticales pouvaient être graves. Poggio Bracciolini, par exemple, a dû subir une humiliation publique aux mains de Laurent Valla, qui a consacré un dialogue entier à révéler les erreurs du latin, de latinité, dans un seul livre de Poggio. Pour éviter une telle catastrophe, il soumettait le texte au jugement d'un ami, qui devrait être capable d'évaluer et de corriger à la fois le fond et le fond. L'auteur ne devait pas envoyer des exemplaires de présentation à ses patrons et ses collègues ou donner un archetypus, c'est-à-dire un exemplaire de base, à son catholaio, son libraire, pour en faire des copies, avant que son texte eût subi ce procès d'expurgation. Certains humanistes, comme Niccolò Niculi, Florentin, et Antonio Panormita, poète et critique, devinrent célèbres pour leur habileté à découvrir les erreurs d'autrui et à les corriger. Niculi éditait les œuvres de Poggio et pas mal d'autres réclamaient son aide, même si on savait bien qu'il jugeait la plupart des écrits de ses contemporains plus dignes d'un cabinet d'aisance que d'un cabinet de lecture. Les humanistes éditeurs se voyaient comme les successeurs des anciens, de Calpline et Atticus, et le terme « emendo » ou « emendatio » dans le langage se référait au changement de style et de contenu qu'ils suggéraient à leurs amis. C'était donc l'époque des correcteurs au grand style, des correcteurs qui étaient les collègues ou même les supérieurs des auteurs qu'ils aidaient. En 1515, nous sommes déjà à l'âge de la reproduction mécanique. Ce n'est plus le grand humaniste qui corrige le texte, même le texte d'un auteur classique. La correction est devenue une affaire des professionnels, ce qui ne veut pas dire que la correction est faite d'une façon très systématique. Pour Sénèque, c'est Beatus Renanus, un homme très érudit, mais aussi très modeste, qui lisait des épreuves pour les éditeurs de Bâle, qui supervise l'édition. Erasme n'est même pas à Bâle, tandis que l'édition est produite. Et c'est Renanus qui a composé le texte de présentation que je vous ai montré. Les conditions de travail sont normales, c'est-à-dire très problématique. Renanus doit établir le texte sur la base de matériaux qui sont absolument inadéquats. Erasme ne met pas à sa disposition un nouveau texte critique qu'il a établi, rédigé page par page, mais des exemplaires annotés d'éditions précédentes. On a l'impression que Renanus n'a pas avant lui-même un plan de l'édition de la main d'Erasme. Et même Renanus, dont la patience devient proverbiale, peut supporter une immersion dans les détails de la lecture des épreuves. Il trouve un homme encore plus modeste que lui, un jeune homme qui s'appelle Wilhelm Nissen. Et c'est Nissen qui doit corriger les épreuves de l'édition de Sénèque, de Renanus ou d'Erasme ou de n'importe qui. Bientôt, Rhénanus dut avouer à Erasme que son collègue, le pauvre Nason, avait été absolument accablé par la tâche. C'était tout simplement trop difficile. Au moins, souligne-t-il dans une lettre, dans le texte de présentation, ils n'ont pas promis qu'ils pourraient corriger toutes les erreurs, juste une partie des erreurs. C'est une apologie qui n'en a pas satisfait Erasme à Cambridge. Pire encore, tandis qu'Erasme n'était pas là, Rhénanus ou Nason a ajouté à l'édition au moins un texte qu'Erasme regardait comme un faux évident, c'est-à-dire la correspondance latine de Sénèque et de saint Paul. Voilà, ce sont des lettres très intéressantes que je recommande. Bien qu'Erasme pût noter brièvement dans son introduction, c'était toujours la dernière chose qu'on a écrit et imprimé, c'était la lettre préface, que ce texte était faux, il semble avoir senti que la présence même du texte dans son édition le rendait vulnérable à l'accusation, lui, l'héritier de la méthode critique de Laurent Valle, d'avoir été trompé par un faux. Et malheureusement, il lui fallait attendre jusqu'en 1529 avant que Froben fût prête, ayant vendu enfin tous les exemplaires de l'édition précédente, à sortir une nouvelle. Et même la nouvelle édition comprend encore la correspondance, bien que le commentaire la identifie explicitement comme un faux. Même là, en 1529, on a l'impression qu'Erasmus n'a pu exercer un contrôle très sévère sur l'édition. La table des comptes des matières, par exemple, répertorie non seulement les lettres de Sénèque à Paul et de Paul à Sénèque, mais aussi d'autres faux. Et ce que j'aime vraiment bien, il y a aussi une section vraiment borgésienne des textes d'Erasme et de Sénèque qui n'existent pas. On s'imagine ce qu'Erasme a pensé quand il voyait cette table de matière. Donc, c'est une petite histoire qui a deux morales importantes. Au XVIe siècle, même les érudits ont vu la correction comme une activité de l'état bas, qu'il préférait déléguer à un collègue de rang inférieur. Sauf exception, bien sûr, mais c'était la vision normale de la correction. Et les correcteurs, pour leur part, ne pouvaient pas contrôler beaucoup des aspects de la production des textes qui leur étaient confiés. Ces deux faits, ces deux aspects de la situation, ont joué tous deux des rôles principaux dans le procès de paupérisation culturelle du métier qui avait lieu entre l'époque du patricien Niccoli, le prince des correcteurs, et celle des professionnels modestes tels Rhénanus et Nason. Les difficultés du métier se manifestent déjà aux premières étapes de la vie professionnelle. Le correcteur commence sa carrière, normalement, par le poste de lector ou lecteur. Son devoir est de lire la copie à haute voix, tandis que le correcteur relit et vérifie les épreuves. Toute personne qui espérait faire carrière en corrigeant des textes, les épreuves des textes, devait commencer par passer 6 mois ou 1 an de travail comme lecteur. Il y a une lettre de Friedrich Silburg, c'était un correcteur allemand assez renommé, et Goetheus, qu'ils ont écrit pour un jeune homme qui s'appelait Enricus Cubzius et qui avait travaillé avec eux en tant que lecteur. Ce texte indique, à partir des termes employés, les limites des compétences qui étaient nécessaires au lecteur. Nous certifions que pendant la période d'une année, dans laquelle il a travaillé dans notre boutique comme lecteur, il a donné de telles preuves évidentes de sa diligence, de son honnêteté, de sa loyauté, de son engagement, mais pas de son érudition ou de son éloquence, ces termes n'apparaissent pas, que si ses affaires le permettaient, nous serions heureux d'employer son travail à nouveau. Pauvre homme. Il y a un cas limite, heureusement, qui nous permet de définir les compétences modestes dont on avait besoin pour devenir lecteur, même chez les plus savants éditeurs. En 1570, Christophe Plantin décrit dans une longue lettre à un secrétaire d'État espagnol, Don Gabriel de Zayas, les occupations qu'il a trouvées pour ses 5 filles. Et d'autant que la première enfance est trop fragile et débile du corps pour faire choses manuelles au ménage ou train de marchandises, je leur ai fait alors tellement apprendre à écrire et à bien lire que depuis l'âge de 4 à 5 ans jusqu'à l'âge de 12 ans, chacune des 4 premières, selon leur âge et rang, nous ont aidés à lire les épreuves de l'imprimerie en quelque écriture et langage que se soit offert pour imprimer. La quatrième fille de Plantin, Magdalena, avait 13 ans lors de la composition de cette lettre. Selon Plantin, et voilà un lecteur, selon Plantin, elle participait activement au plus grand projet éditorial qu'il ait jamais réalisé, c'est-à-dire la Bible polyglotte d'Anvers, publiée en 8 volumes en 1569 à 1572. C'est le grand livre qui a été montré à Montaigne, à la Bibliothèque Vatican, lors de son visite. À côté d'un manuscrit de Grégoire le Grand et d'autres choses très belles. C'est vraiment la plus grande entreprise scripturaire et typographique du XVIe siècle. Plantin et son patron, le roi Philippe II, avaient confié au savant espagnol Benito Arias Montano la tâche colossale d'établir les textes bibliques en 5 langues. Le fils frère de Plantin, Franciscus Raffelengius, corrigeait les épreuves en collaboration avec Montano. Et Magdalena travaillait à côté de... La quatrième fille, explique Plantin, nommée Magdalene, âgée maintenant de 13 ans, tient encore la règle, compte tenu des autres jusqu'à pareil âge, à savoir d'aider à sa mère aux affaires de ménage et principalement à peculière charge de porter toutes les épreuves des grandes Bibles royales au logis de Monsieur le docteur Benito Arias Montanus et de lire des originaux hébraïques, chaldéens, syriaques, grecs et latins le contenu des dites épreuves, tandis que mon dicieux, le docteur, observe diligemment si nos feuilles sont telles qu'il convient pour les imprimer. Après que... Après que Montano et Raffelengius avaient achevé leur travail, raconte Plantin, d'autant que l'âge ne me semblera plus être sûr de la laisser fréquenter avec les correcteurs, Magdalena a dû changer sa profession pour travailler exclusivement dans la boutique. Mais sa fille cadette, Henriette, n'avait que 8 ou 9 ans. Et Plantin explique « Je délibère d'essayer si elle pourra aussi propre à lire les épreuves de l'imprimerie, comme auront fait toutes ses sœurs devant lui elle. » Dans la maison d'édition, la plus grande et la plus savante de l'Europe, le travail du lecteur pourrait être réalisé, au moins en théorie, par des petites filles de 8 ou 9 ans. Peut-on reposer son confiance en ce récit? Sans doute, leur père a décrit ses filles érudites dans des termes similaires à de nombreux amis, et ses vantardises donnèrent lieu à des commérages. En 1576, Johannes Eustius pose la question dans une lettre à Théodore Pullman, correcteur chez Plantin. Est-ce que c'est vrai que les filles de Plantin peuvent vraiment lire et écrire non seulement le latin, mais aussi le grec et l'hébreu? Si c'est vrai, s'il vous plaît, expliquez-le-moi. Pullman répond que certaines femmes, notamment l'épouse et la fille du marchand anglais Jean Clément et les filles du marchand anversois Johannes Huvius, avaient vraiment maîtrisé le grec et le latin. Mais la fille de Plantin pouvait lire l'Hébreu, pouvait lire l'hébreu, le grec et le latin assez couramment, mais elle ne pouvait pas les comprendre. Dans ce contexte, le gebat ne peut signifier qu'une seule chose, lire dans le sens de lire à haute voix, exactement comme Plantin décrit la situation. Un document nouvelle découverte par Theo Dunkelgrün, un jeune chercheur néerlandais, démontre que Plantin et Pullman n'exagèrent pas. Les épreuves d'un des volumes de l'Ancien Testament, de la Bible polyglotte, se trouvent aujourd'hui dans l'archive Plantin. Sur ces pages, y a-t-il des taches d'encre, des quadrillages et d'autres marques, les preuves que ces pages sont passées à travers la salle de composition. Plus remarquable encore, les marges sont chargées d'annotations, dans lesquels l'éditeur Benito Arias Montano et le correcteur discutent des questions techniques de la critique textuelle et de la mise en page. Une des annotations de Montano, c'est celle-là, écrite à titre exceptionnel en hébreu, contient une plainte. Vous devriez dire à cette fille qu'elle doit se hâter de venir parce qu'elle est toujours, tous les jours en retard. Évidemment, c'était Magdalena qui rendait possible le dialogue virtuel de Montano et Raphaëlengius sur les épreuves quand elle apportait les feuilles au logis de Montano et les lui lisait à haute voix, en hébreu, en chaldéen, etc. Plantin ne mentionne nulle part ses retards, assez normaux chez une fille de 13 ans, peut-être parce qu'il n'en savait rien. Probablement, Montano a écrit la note en hébreu plutôt que son latin habituel, afin que le père, s'il lui arrivait de voir cette page, ne pourrait pas comprendre sa plainte. Mais ce qu'on voit clairement, c'est que Magdalena ne comprenait pas l'hébreu. C'est évidemment, quand un jeune diplômé accepta de travailler en tant que lecteur, il pratiquerait un travail qui aurait pu faire et assez bien par une fillette. Même les correcteurs, c'est-à-dire ceux qui avaient fait le travail du lecteur et gradué, ceux qui réussissent à établir une carrière, se plaignaient souvent et amèrement de la façon dont ils étaient traités par les imprimeurs. John Fox, par exemple, qui deviendra aux années 60 du XVIe siècle le martyrologue de la réforme anglaise, part en exil, comme pas mal d'autres clercs protestants, au début du règne de la reine Marie. Il doit gagner sa vie à Bâle de 1565 à 1559 comme correcteur. Dans une lettre à son ami Edmund Grindal, il explique qu'il avait accepté ce travail seulement à cause de sa pauvreté. Froben et Episcopius m'ont proposé un projet de préparer et de comparer les textes de Jean Chrysostome. À l'époque, j'étais complètement sans argent, jusqu'à mon dernier sou. En conséquence, j'ai dû perdre 2 mois en déplaçant la poussière. Pendant son séjour à Bâle, Fox tissait un grand réseau de mécènes, des collègues et des informateurs, et il maîtrisait, comme on sait, c'est la base de sa martyrologie, il maîtrisait pas mal de techniques nouvelles d'organisation du travail. De retour en Angleterre, il demande à ses copains John Field et Laurent Humphrey à Oxford, ils avaient eux-mêmes aussi travaillé comme correcteurs à Bâle, de morceler le manuscrit énorme de sa martyrologie afin que plusieurs étudiants d'Oxford purent s'occuper simultanément de la vérification des références. C'est fort probable que Fox ait fait la connaissance de cette méthode d'organiser un travail collectif en Suisse. Quand même, il ne semble pas qu'il garde de bons souvenirs de son travail de correcteur. Son fils Samuel Fox, qui dressa une biographie jusqu'à aujourd'hui inédite de son père, remarque que son père devait son succès chez les imprimeurs à son tempérament. Grâce à l'autodiscipline dont il s'était servi depuis sa jeunesse, des expériences que les autres trouvaient épouvantables, la pauvreté, les nuits sans sommeil, la faim, étaient pour lui comme un jeu. c'est assez explicite. Et le cas de Fox n'est pas unique. C'est vrai que les noms des correcteurs apparaissent en premier dans les dossiers de paix de Froben, de Episcopius, de Plantin, mais le salaire était très modeste et souvent inférieur à celui des compositeurs les mieux payés. Certains correcteurs, par exemple Raphaelengius et Cornelis Quilliam, travaillaient fidèlement et selon toutes les apparences, heureusement, chez Plantin au fil des décennies, même si Raphaelengius, sa femme et leurs enfants devaient vivre pendant des années dans une seule petite chambre. Mais les documents conservent aussi la mémoire de M. Sterck. C'est un correcteur qui quitte l'emploi de Plantin parce qu'il ne veut pas loger à la maison de son maître comme les correcteurs faisaient normalement. Avec un salaire de 2 florins par semaine, Sterck ne peut pas trouver un logement ailleurs à Anvers et doit partir de la ville. J'avais prédit cela pour lui, explique Plantin dans une lettre. Il note d'ailleurs qu'il se sépare en restant ami. Le cas le plus intéressant est celui d'Olivier Affinet, qui se trouve dans les registres de Plantin. Le dossier de paix enregistre les salaires qu'il a reçus de semaine en semaine pendant 13 ans. Soudain, en 1593, il est parti mécontent et sans dire adieu. C'est superbe. C'est comme le moment à la fin d'une maison de poupée d'Ibsen où Nora claque la porte. C'est la fin heureuse d'une petite histoire qui était probablement assez tragique. Les correcteurs chez Plantin savaient exactement à qui s'en prendre de leur pauvreté. Le Concordia, un document qui se trouve dans les archives de Plantin, nous informe que les correcteurs s'accordèrent en 1664 de tenir une fête annuelle. Le document enregistre également les chuchotements et souvent les cris qui sont passés entre les correcteurs lors de ces rencontres. « Moi, Philippe Jacob Noyen, j'ai souvent entendu des autres et le vénérable de Klein, un maître Van der Weyden et Jérôme de Bravio, tout raconte que les correcteurs recevaient une augmentation de salaire quand ils avaient été là depuis 2 ans. Noyan et le sudi de Klein ont également entendu cela souvent. Les pages sont chargées de notes qui rappellent les noms des collègues injustement congédiés et d'autres encore qui avaient réussi, c'est-à-dire à quitter la maison de Plantin pour accepter, par exemple, des bénéfices plutôt que de passer 30 ou 40 ans en corrigeant les épreuves. Le statut culturel, économique et professionnel du correcteur était ambigu, même fragile. Pas mal de correcteurs étaient des hommes cultivés auxquels manquaient les moyens financiers, la santé ou le tempérament dont on avait besoin pour faire progresser une carrière dans une profession libérale ou à une université. Mais d'autres étaient des artisans par formation. Le jeune Thomas Plater, par exemple, l'imprimeur des instituts de Calvin, gagnait sa vie comme cordier, comme il explique dans son autobiographie, avant de devenir correcteur et éditeur. Théodore Pullman travaillait dans ce qu'il aimait appeler, dans un mélange de latin et de grec, son musographeum, c'est-à-dire une chambre d'études et atelier de Foulon à la fois, à partir de laquelle il a signé ses préfaces en disant adieu à son lecteur. Vala ergo ex nostro museognafeo, vala ergo gnafe. Adieu donc, Foulon, écrit Scaliger dans son exemplaire d'un de ses livres. En 1562-63, Bartholomew Varol prépare des copies, corrige des épreuves et établit des index pour Froben. Il est compositeur de formation et il retourne à ce métier quand il peut. Johannes Pacus, qui travaille chez Proban comme compositeur en latin et en hébreu 2 ans plus tard, reçoit également un paiement mit corrigieren hebraiki, c'est-à-dire pour corriger un texte, pour avoir corrigé un texte hébraïque. Il n'est pas surprenant que les compositeurs savaient corriger les épreuves. Cela s'apparentait à leur travail. Une épreuve fragmentaire de deux pages d'une édition d'un traité, d'un manuel scolaire très, très populaire, c'est-à-dire le Summa Quadripartita Philosophiae d'Eustachius de Sancto Paulo, un livre qui a été lu par tout le monde, de Descartes et d'autres philosophes catholiques jusqu'aux protestants de Cambridge et de Harvard, se trouve à titre exceptionnel dans la bibliothèque Reine de Trinity College, Cambridge, où ça a été découvert dans la couverture d'un autre livre. Truffé d'erreurs littérales et techniques, avec des lignes qui sont inégales, comme vous voyez, ce document n'est pas une épreuve qu'un correcteur aurait utilisée. Ça doit être plutôt une épreuve sale, et « dirty proof », comme on dit en anglais, c'est-à-dire la première épreuve que le compositeur a tirée pour éliminer ses erreurs très élémentaires avant de tirer une seconde pour le correcteur, pour que la correction dans le vrai sens commence. C'est-à-dire que les correcteurs eux-mêmes faisaient de leur mieux pour nettoyer des épreuves. Ils connaissaient les méthodes du correcteur. Ce faisant, il apprenait les techniques fondamentales du métier. Le voyage de la presse à la salle de correction n'était donc pas long. Mais quand un compositeur de formation franchissait ce seuil intellectuel, son progrès sapait la sécurité culturelle et économique du correcteur. Le correcteur collaborait quotidiennement avec des ouvriers. Il remplissait ses propres mains d'encre noire. Mais maintenant, il devait accepter que le travail auquel il et ses collègues sentaient une fierté fragile mais réelle pourrait être fait par un simple ouvrier. Dans la gravure de Tim, qui accompagne le premier traité sur la correction des épreuves, une figure curieuse se trouve au premier plan, à droite. Il porte une collerette. Dans un âge de loi somptuaire, ce vêtement aurait dû identifier son porteur comme quelqu'un qui gagnait sa vie avec son érudition et son intelligence et pas par ses mains. Mais il est debout ou peut-être assis à son pupitre devant une casse. On voit la copie qui est fixée dans un visorium qu'utilisaient les compositeurs et il tient dans la main gauche un composteur, une sorte de réglette sur laquelle les lettres sont placées côte à côté par le compositeur. Il semble que cet homme à la collerette doit être un artisan, un compositeur. Est-ce que c'est un compositeur qui, ayant appris le latin et ayant maîtrisé l'art de la correction, revient à son travail original mais porte encore les vêtements d'un homme cultivé? Ou est-ce que c'est un correcteur qui sait lire les lettres de plomb dans leur forme, à l'envers, et les corrige en maniant le compositeur? Mon père, qui est un journaliste aux années 30 et 40 à New York, savait le faire. Il savait lire non seulement les épreuves, mais aussi les formes, quand il y avait une pression chronologique. Au moins, savait-on que c'est une figure contradictoire qui incarne l'ambiguïté du statut du correcteur. Les problèmes techniques que le correcteur devait confronter dans son travail quotidien étaient encore plus graves que celles posées par son statut faible social et économique. Les lecteurs, les éditeurs et les correcteurs tombaient d'accord sur une chose. L'impression, c'était le royaume des coquilles et d'autres erreurs encore pires. Dans son traité sur la préparation des textes pour l'imprimerie, Juan Carumuel cite le moraliste Luigi Novarini qui dit « Il faut que l'imprimerie soit la mère des erreurs, car elle est très fertile avec elle. » L'héritier de Christophe Plantin, Balthazar Moritus, étale une fable dans une lettre à Justus Lipsius. L'inventeur de l'imprimerie aurait condamné à la mort le premier homme qui imprimerait un livre exempt d'erreur. Mais les imprimeurs ont eu de la chance, parce qu'aucun d'entre eux n'a encore eu à craindre de payer ses prix. Les correcteurs jouaient un rôle de premier plan dans ce royaume infernal. Lorsque Moritus préparait une nouvelle édition de la Militia Romana de Lipsius, il a dû expliquer à son auteur favori qu'il devait corriger des erreurs non seulement dans les épreuves, mais aussi dans la copie que Lipsius avait préparée lui-même. Moritus réfléchit. J'apprends que si l'erreur est la condition humaine normale dans n'importe quel domaine de la vie, elle l'est certainement dans cette correction des ouvrages imprimés. Henri Estienne, maître imprimeur et maître de l'hyperbole, va encore plus loin. Il dit dans son Artis Typographia Querimonia, sa plainte de l'art typographique, que les plus nobles arts auteurs dans les deux langues ont été confiés à des correcteurs absolument incompétents. Il décrit un correcteur de sa connaissance qui effectuait son travail avec une cruauté incroyable, en infligeant des blessures horribles au texte. À chaque passage où elle a rencontré le mot procos, c'est-à-dire soupirant, il a substitué porcos. Car, dit-il, je sais que les porcs sont une sorte d'animal, mais je ne pense pas que procos sont un animal ou autre chose. Lorsque Estienne décrit le correcteur comme une sorte de circé masculine avec des mains sales, il exagère. Mais c'est vrai que des correcteurs ont fait des erreurs terribles, des erreurs qui dérivaient en partie de leur métier. Par exemple, la grande erreur de Daniel Heinsius. En 1633, la maison d'Elsevier à l'aide préparait une édition de poche du Nouveau Testament grec. À l'aide, les professeurs et les étudiants travaillaient souvent comme correcteurs chez Elsevier. Dans ce cas, c'était Jérémy Holtzlin, professeur de grec, qui a ménagé le texte. Et c'était un savant plus connu, Daniel Heinsius, qui a effectué un deuxième service, si service est le mot juste. Lorsque Estienne dénonce les autres imprimantes, il remarque que la plupart d'eux ne pouvaient pas écrire ou même lire un texte en latin. Il est absurde, il dit, de voir des lettres préfaces composées en latin par des imprimeurs, des textes en grec, alors que la plupart d'eux ne pouvaient pas comprendre le premier mot d'un tel texte, et certains ne pourraient même pas le lire à haute voix. Dans ce cas, il n'exagère pas, ce fut Heinsius, pas les Elsevier, qui composa la préface, qui apparaît au début de l'édition sous leur nom. C'est voici l'édition et voici le projet de la préface, griffonné par Heinsius dans un manuscrit grec patristique de la Bibliothèque universitaire de l'Aide, dont il était le directeur. En essayant de mettre l'accent sur les nouveautés particulières de cette édition, Heinsius écrit « Ici, vous avez le texte maintenant reçu partout, un texte dans lequel nous ne vous proposons rien de ce qui est subi des changements ou des corruptions. » C'est une affirmation absurde. L'édition ne contient rien de plus qu'une forme légèrement corrigée du texte grec du Nouveau Testament établi par Erasme très hâtivement à Bâle en 1514. Mais Heinsius la décrit comme un document irréprochable, accepté, vérifié par le consensus des savants. Pendant des siècles jusqu'au présent, la rhétorique de Heinsius a confondu les critiques textuelles du Nouveau Testament qui doivent encore parler de ce texte reçu, un terme qui ne veut rien dire. Pire encore, la notion totalement false selon laquelle un texte reçu existe, continue à donner de l'aide et du réconfort aux littéralistes bibliques qui nient que le texte peut ou doit être corrigé par la critique, c'est-à-dire les gens que Joseph Scaliger, le maître d'Ainzius, a toujours appelé des prophètes et a condamné. C'était donc un texte de présentation qu'Ainzius a écrit très, très rapidement. Ainzius était probablement en besoin des soldes parce qu'il avait dans l'habitude, malheureusement, d'utiliser beaucoup d'alcool. Mais quand même, c'est une erreur due aux pressions commerciales qui a eu une fortune immense. De plus, et plus souvent, ce sont les conditions de la production du livre qui présentent le problème le plus grave. L'entrée des erreurs dans le texte est un procès en plusieurs étapes. En 1515, Bertus Renanus envoie à Erasme une lettre avec un ensemble de corrections textuelles qu'il vient de faire dans les épreuves de l'édition de Sénèque, que j'ai déjà décrit, dans le texte De Beneficiis. Il explique qu'il les a conçus extemporanément, lorsque la page a déjà commencé à être imprimée. Les corrections sont très bonnes, mais comme Leighton Reynolds, un grand philologue d'Oxford, a découvert, la moitié des erreurs que Renanus a signalées et corrigées ne se trouvent dans aucun des manuscrits ou des éditions de Sénèque. Le correcteur devait lutter avec des erreurs des compositeurs, des erreurs tout à fait nouvelles faites pendant la production de cette édition. Un nouveau couvent de monstres, né dans la maison d'impression elle-même. De plus, il y avait le problème du temps. La correction soigneuse pouvait retarder la production de textes, et pas mal d'imprimeurs ne voulaient pas supporter ces délais. Vous savez, le compositeur devait rassembler les lettres, les signes de ponctuation et les espaces et les justifier. Une fois le texte est composé dans la forme, on en tire les preuves, et c'est les épreuves, normalement, de plusieurs pages à la fois. Le correcteur doit lire et corriger les preuves. Le correcteur fait ses corrections dans la forme. Le procès se répète et se répète encore avant qu'une feuille de l'édition puisse être tirée. Ça prend du temps. Et normalement, on voulait produire une feuille par jour, c'est-à-dire 1000 exemplaires d'une feuille. Mais il fallait attendre jusqu'à l'après-midi pour commencer la production. C'était un vrai problème. La plupart des... En principe, le moraliste Caramuel y insiste, un imprimeur qui imprime une feuille avant d'avoir reçu les corrections du correcteur viole les règles de l'art de l'imprimerie. Il commet même un péché moral. Mais la plupart des imprimeurs, il doit admettre, ne se donnent pas la peine d'attendre au correcteur. Parfois, dit Caramuel, les imprimeurs qui semblent être très prudents sont en fait extrêmement imprudents, car quand la forme est encore en cours de correction ou une épreuve a été envoyée à l'auteur, ils impriment pas mal de pages et ils sont contents que seules les dernières pages à être tirées soient corrigées. Ce faisant, ils trompent les auteurs et le même magasin produit des feuilles corrigées et non corrigées du même livre dans la même édition. Les livres eux-mêmes confirment le diagnostic du moraliste. Lorsqu'une erreur assez grave vient à la lumière, les presses peuvent être arrêtées et la forme corrigée. Mais même dans ce cas-là, les feuilles non corrigées seront utilisées aux côtés des corrigées dans des exemplaires. Ici, vous avez une page du psautier grec d'Aldemanus et vous voyez là une correction qui a été faite à la main et là la même correction dans la forme. Donc deux pages qui ne sont pas identiques de la même édition produites dans la maison la plus importante d'Italie au commencement du XVIe siècle. Et c'était, comme Kurt Bühler et d'autres ont démontré, assez normal chez Aldmanus. Certains correcteurs ont abandonné la lutte contre les coquilles et les erreurs et avoué leur désespoir. Le 11 mars 1505, Matthias Schurer compose une dernière lettre au lecteur de la première édition de l'Epitoma Rerum Germanicarum de Jacob Wimfeling, imprimé par Johannes Prus à Strasbourg, tandis que Schurer, d'après le colophon, le mettait en ordre, c'est-à-dire le rédigeait. Sa lettre devient une litanie de dénégation. « Ne soyez pas surpris, ne vous fâchez pas s'il y a des inversions, des transpositions, des changements et des omissions dans ce livre. Personne ne peut tout voir. Je suis un être humain, et un être humain qui a deux yeux, et non Argus, dont la tête, selon les mythes anciens, aurait été sainte de son Dieu. Croyez-vous en l'homme expérimenté? Personne ne peut inspecter d'assez près pour trouver toutes les fautes. En outre, la copie avait été tronquée, corrompue et était pleine d'erreurs, ce qui était la faute du scribe. » Donc, on blâme le correcteur, qui blâme le scribe. Comme la foire de Francfort approchait à grands pas, il nous a fallu imprimer le livre dans un temps très court. Des autres correcteurs jetaient le blâme sur le correcteur aux mains sales dans l'imprimerie. En 1511, Ottaviano Petrucci, qui avait établi une activité d'imprimeur de musique à Venise, déplace sa presse à Fossombrone, non loin d'Urbino, dans les Marques. Deux ans plus tard, il sort un énorme travail sur l'histoire et la réforme du calendrier, le Paulina, écrit par l'évêque de Fossombrone, le flamand Paulus de Mittelbourg. C'est un livre exigeant, fourmillant de tables mathématiques, lardé de citations en grec et même en hébreu. Le correcteur, qui s'appelle Jérôme Postumus, non seulement compose une liste des errata, mais il en identifie le coupable. Voici la liste des errata et voici le message de Postumus. Lecteur honnête, si vous trouvez des erreurs dans ce travail, veuillez ne pas les attribuer au correcteur, mais au compositeur. Comme ils n'ont pas appris le latin, il semble inévitable qu'ils tournent souvent les lettres à l'inverse, remplacent un mot par un autre et déplacent les syllabes. En outre, afin que vous soyez au courant des faits, vous devez savoir que Jean-Baptiste, un Éthiopien et un jeune homme imberbe, a effectué son apprentissage en tant que compositeur de ce livre. Postumus remplit, comme vous avez vu, le reste de la page avec sa liste de corrections. Le jeune Jean-Baptiste a dû être sans doute l'un des nombreux Africains qui vivaient et travaillaient dans l'Europe de la Renaissance. On se demande ce qu'il a ressenti quand il a dû composer ses lignes. En 1609, les successeurs de Plantin, Jean et Balthasar Moritus, essaient de formuler des règles pour la correction. Le correcteur le plus expérimenté, Cornelis Caelian, venait de mourir et Honschuk leur avait donné un modèle avec son traité duquel ils empruntent quelques passages. Les règles du jeu sont claires et simples. Il faut que les correcteurs aient une bonne connaissance du latin et du grec, qu'ils disposent d'une très bonne maîtrise des règles orthographiques et aussi des techniques de l'imprimerie. Ils doivent travailler en étroite collaboration avec les lecteurs qui lisent la copie à haute voix, comme nous avons vu, et avec les compositeurs. Ce sont des règles précises qui incarnent des décennies d'expérience pratique. Par exemple, c'est un passage qui a été traduit incorrectement par plusieurs érudits. Ils mettent les correcteurs en garde. Vous voyez qu'il s'agit d'hommes expérimentés. Non seulement de vérifier les petites lettres, c'est-à-dire les lettres dans le texte, mais aussi lors de la lecture des lettres plus grandes, c'est-à-dire les titres, les tables matières, de prêter attention aux syllabes des mots individuels et même leurs lettres. Sinon, ils peuvent s'exposer à la risée en omettant non seulement des lettres, mais aussi des mots entiers dans les passages imprimés en gros caractères. C'est absolument vrai que les erreurs étaient très fréquentes dans les dans les titres et dans d'autres passages qu'on n'a pas lus aussi soigneusement qu'on a lu le texte. Ce sont des règles qui évoquent un monde d'ordre et de précision dans lequel les routines, une fois établies, pourraient empêcher les catastrophes les plus pires. La chambre des correcteurs, et je suis certain que plusieurs de vous ont visité la maison de Plantin et ont vu la chambre des correcteurs, c'est une chambre du XVIIe siècle, ça n'a rien à voir avec la correction que je présente ici, mais la vision du travail, la vision d'ordre et méthode qu'évoque la chambre est la même que ces règles dépeignent. Mais justement, comme le traité d'Anchuc, les règles de les Morétus suggèrent également que la correction nourrissait un potentiel de désordre. Les correcteurs, par exemple, et c'est ici, c'est le passage que je vais traduire, les correcteurs, par exemple, doivent faire tous les efforts pour éviter de boire et le vice d'ivrognerie. Honchuk était allé plus en détail. Ensuite, le correcteur doit éviter avec le plus grand soin le vice de l'ivronnerie, de peur de ne plus rien voir du tout, ou au contraire, de voir plus qu'il n'y en a en réalité. En fait, les comportements que ces règles interdisent n'étaient que trop communs. Jean Chesdel, qui se présente ivre au travail chez Plantin au début de juillet 1591, manque quelques jours de travail et plus tard perd son poste. Les Morétus insistent aussi que les correcteurs ne doivent pas quitter la boutique à midi ou le soir avant que les épreuves qu'ils ont lues ou les feuilles qu'ils ont corrigées aient été soigneusement révisées et mises en rapport avec les corrections qu'ils ont enregistrées. L'absentéisme, la désobéissance et le manque de véritable engagement au travail avaient troublé l'atelier Passe-Plantin à travers les années. Dans les années 1570, Plantin s'est plaint plusieurs fois que ses correcteurs, comme ses ouvriers, refusaient de s'arrêter, comme il dit à Montaneau, de raconter des histoires, c'est-à-dire de parler de questions de religion. Ni les ouvriers, dit Plantin, ni même les correcteurs ont à cœur notre entreprise comme ils le devraient. La légende sanctifie les grands imprimeurs de la Renaissance et les troupeaux de correcteurs qui sont rassemblés dans leur atelier. Une page inoubliable des adages d'Erasme décrit Almanus, assis dans un coin de son atelier parmi tout le bruit du travail, imperturbablement lisant les épreuves des adages d'Erasme, qui avaient déjà été corrigés par un correcteur qui s'appelait Serafino. Erasme lui-même ne révisait jamais ses épreuves que quand il voulut changer un passage. « Quand je lui ai demandé, écrit Erasme, pourquoi il se donnait la peine, Alde a répondu « studeo ». Alde et certains de ses associés allèrent jusqu'à se constituer une académie, une société de langue grecque, et voici le statut, c'est le seul exemplaire qui existe du statut de l'Académie dans la Bibliothèque Vatican. Toute chute dans l'usage du latin, ou encore pire, dans l'usage de l'italien, donnerait lieu à une amende versée au pot commun pour assurer à la fin les frais d'un splendide, un superbe festin. Un festin meilleur que ceux des ouvriers, dit le statut. Ces règles, comme Martin Lowry et Martin Davis ont montré dans ses études classiques, dénotent des désirs plutôt que des réalités sociales quotidiennes, mais elles reflètent les rêves d'un groupe de lettrés qui était vraiment remarquable. Les 10 correcteurs cultivés qu'employait Robert Estienne faisaient leur travail avec autant de précision que Robert pouvait accrocher les feuilles corrigées en public en promettant une récompense à qui y relèverait une faute typographique. Et de façon semblable, les Amerbach et les Froben réunirent des équipes experts pour préparer la copie et lire les épreuves de leur grande édition. Plantin avait une équipe de 6 correcteurs à l'œuvre dans une propre chambre déjà en 1573, une équipe de 3 ou 4 à la fin des années 90, quand la situation devenait plus difficile. Les employés de Plantin disposaient d'une ample bibliothèque de référence dans leur chambre de travail. Et on a encore maintenant des livres dans la bibliothèque Plantin qui portent le terme ex-anagnosteria de la salle des correcteurs. Quelles que fussent leurs conditions de travail, les correcteurs ne pouvaient que rarement exercer un contrôle total sur la production des textes qui leur sont confiés. Les références à l'imminence de la foire du livre et de la pression imposée par cette échéance n'étaient pas seulement conventionnelles. Dans son autobiographie, Thomas Plater rappelle un effort particulièrement pénible pour terminer plusieurs livres sur le temps. Le moment de la foire approchait et nous avions à terminer pour cette époque différents ouvrages. Pressés par le temps, nous travaillions même les jours de fête, ce qui nous obligeait de nourrir nos ouvriers et de leur donner une paie plus élevée. Dimanche, à 11h du soir, le partenaire de Plater, un compositeur ancien qui s'appelait Balthazar Ruch, se mit à me lancer des mots piquants. Il se tut, mais puis, saisissant un épais châssis, il s'approcha de moi par derrière pendant que je lisais l'épreuve. Il avait déjà les deux bras levés pour m'asséner un coup sur la tête quand, en regardant de côté, je m'aperçus de cette manœuvre. Plater se leva rapidement et paria le coup avec son bras. Ruch essaya de lui crever un de ses yeux et Plater, comme il dit, lui déchargeait sur le nez un tel coup de poing qu'il tomba à la renverse et resta un bon moment sans connaissance. Dans certaines circonstances, semble-t-il, le travail du correcteur pouvait être extrêmement dangereux, ce qui n'était pas propice au travail de qualité. Même lorsque la foire n'était pas imminente, le calendrier de travaux pouvait poser des problèmes. En 1618 jusqu'à 1621, un compositeur et correcteur juif nommé Abraham Braunschweig révisait les épreuves de l'édition de la Bible hébraïque éditée à Bâle par Johann Buxtorf l'Ancien. C'est un travail absolument collaboratif. À la différence de la plupart des érudits et imprimeurs chrétiens, qui ne mentionne guère les correcteurs qu'ils emploient, Buxtorf dit franchement qu'il a pris soin d'éliminer toutes les erreurs et des tâches que nous avons détectées, aidées par les efforts d'un certain juif. En 1619, Buxtorf va jusqu'à assister à la circoncision rituelle du fils de Braunschweig, un acte qui l'a mis en difficulté avec le conseil de la vie, qui le menace d'expulsion de son poste et de la vie, et finit par lui imposer une amende de 100 gulden. C'est une somme énorme, le salaire d'une année entière. Quand même, Braunschweig se heurte à plusieurs obstacles à cause de sa religion dans la vie quotidienne, dans le processus de production d'un atelier. Dans sa préface en hébreu, il se plaint des ouvriers qui auraient imprimé chaque samedi une feuille entière quand Braunschweig ne pouvait pas être présent pour la relire. Donc une feuille sur 6 n'a pas été corrigée par le correcteur. Et ils ont refusé de travailler le dimanche quand il aurait pu être là. En outre, même quand il a pu être présent et examiner les épreuves, les compositeurs arrachaient les feuilles de sa main avant qu'il ait fini de travailler. Là où Buxtorf se vantait dans sa préface latine adressée aux chrétiens, qui n'en savaient pas beaucoup, de l'excellence de l'édition, Braunschweig présentait des excuses en hébreu à ses lecteurs juifs pour les nombreuses erreurs qui sont restées dans les pages qui n'avaient pas été corrigées. L'espace ainsi que le temps pouvaient poser des problèmes. Il y a une fable convenue parmi les historiens du livre, selon laquelle les correcteurs habitaient et travaillaient toujours dans les ateliers. En fait, les pratiques variaient. Les correcteurs employés par Plantin, par exemple, comme nous l'avons vu, étaient aussi logés par lui. mais Beatus Renanus, dont le travail comme correcteur donnait son lustre à la maison de Froment, allait et venait entre Bâle et Célesta. Et même quand il a été à Bâle, il ne vivait pas chez Froben et ne passait pas la journée dans l'atelier. En avril 1517, Renanus rapporte à Erasme que vos traités de copia ont été très soigneusement imprimés. Je les ai améliorés pendant ma promenade de l'après-midi, au cours de laquelle je pouvais visiter le magasin de Froben. Il a un correcteur qui n'est pas désappris, qui accepte la critique, et quand il ne comprend pas quelque chose, il essaie volontiers à apprendre de Fabricius de Bruno Amerbach ou de moi. Évidemment, Renanus ne corrigeait pas les épreuves, il donnait des corrections pour des passages qui étaient particulièrement difficiles quand il était dans la maison. Le pape, on le sait, est infaillible. Mais il s'est avéré que même un pape lettré ne pouvait pas, en tant que correcteur, chasser toutes les erreurs des épreuves d'une édition de la Bible, surtout s'il vivait trop loin des presses. Aux années 580, le pape énergique Sixte V, le pape des obélisques, décide de ne plus tolérer les longues discussions savantes qui avaient retardé l'apparition d'une édition autorisée de la Bible Vulgate après le Concile de Trente. Il prend toutes les questions techniques, il prend des décisions et il publie sa propre édition, dans laquelle le texte apparaît dépouillé de tout appareil et de tous ses variants. Quelles que soient les objections des humanistes qui insistent sur les divergences textuelles des versions et des manuscrits, c'est superbe comme objet d'art, des versions des manuscrits de la Bible, la mise en page du texte établi par Sixte semble déclarer la perfection absolue du contenu. C'est l'imprimeur papal Domenico Bassa qui a produit l'édition dans son atelier d'imprimerie au Vatican au cours de l'été 1589. Le pape, de son côté, passait les mois les plus chauds dans sa villa, bien aimée, sur le Quirinal, refroidi par les brises. Tout l'été, un pauvre frère Augustin, Angelo Rocca, se rendait plusieurs fois par jour entre le Vatican et le Quirinal, en livrant chaque nouvelle feuille des épreuves au pape et puis en les rendant, une fois corrigées, à l'imprimeur. Inévitablement, des erreurs glissaient dans le texte de la Vulgate Sixtine. Certaines d'entre elles pouvaient être corrigées par la réinitialisation, d'autres par des corrections timbrées ou par de petits feuillets imprimés collés sous les mots erronés. La Bible marmorienne et parfaite conçue par le pape témoigne que l'infallibilité papale ne fonctionnait pas dans l'imprimerie, comme a remarqué le savant britannique protestant Thomas James avec délectation. En fin de compte, le successeur de Sixte, Clément VIII, devait rappeler l'édition et la remplacer. Et cette édition est une rareté maintenant parce que plusieurs des exemplaires ont été détruits. C'est comme une automobile qui ne fonctionne pas. Le correcteur, en d'autres termes, avait comme devoir d'exécuter une tâche impossible. Pour bien gérer son travail, il aurait eu besoin d'une statut culturel et économique qu'il n'avait pas et de conditions de travail qui n'existaient pas chez la plupart des éditeurs. Ces efforts étaient constamment menacés par des pressions économiques, les pressions du marché, la nécessité de produire les livres rapidement et de les faire vendre. C'était la lutte pour la perfection était impossible. Quand même, la perfection n'existe pas. Le livre sans erreur n'existe qu'au ciel. Quand même, comme nous verrons la semaine prochaine, il y avait pas mal de correcteurs qui réussissaient non seulement à corriger, mais aussi à déterminer, a fixé le style et le caractère de quelques-uns des textes qui leur étaient confiés. Merci.